30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Bonjour à toutes et à tous. Sympa. Vous êtes bien dans les infos choisies et comme tous les vendredis de midi et demi à 1h sur Radio Galère 88.4 et en DAB+. Alors ça, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Rediffusé en direct sur Aïoli, bonjour les Avignonnais, et le lundi matin à 7h30 sur Radio Galère, bonjour les gens dans les embouteillages. Bonjour.
Bonjour.
Âme de disparue, aigrette dans le vent, votre parfum se pose sur les fleurs des tilleuls, vous dansez dans les rues, survolant, invisible, vos anciennes prisons. De vos corps aériens légères, délivrés, caressant le silence de vos ailes d'oiseaux, vos robes de nuages aux longues traînes roses habillent le printemps. J'entends marcher, le temps, à pas de terre et d'eau, ses murmures de feuilles, le frêle éclatement de ses bourgeons sauvages, le craquement des branches, ces rumeurs de réveil. Toi, la belle évadée surgit de ton enfer, tout habillée de fer, de sable et de fumée. Que l'oubli te soit doux. À toi, sur son chemin de pierre, emporte ton visage, tes rires et tes rêves, et ton corps épuisé dans un monde inconnu. Au-delà des rivages de ta vie saccagée, vers l'obscur univers qui nous est dérobé, où scintille l'étoile de ton regard perdu. C'était un poème de Chrysélidis Réal qui s'appelle Saoudade. Et aujourd'hui, on avait envie de dédier ces infos choisies à une personne qui nous a quittés trop vite. Alors, aux infos choisies, on pense très très fort à elle et on pense très très fort à celles et ceux qui restent autour d'elle. Voilà, les amis, on vous envoie plein de force. Et on avait envie de commencer par écouter cette musique, Chambre 8 de Seidouchi, que ses proches nous ont envoyée. Avec ces mots, pour notre amie et sœur, tu vas nous manquer, repose en paix.
Ko fa le gane mo terno e kale tarabla ko fa waswa e kone ne ma son kale tarabla kona be jamina soro ma opuma de veke nsi sojuna nesi mbere ma sojuna nesi bona puma te yara mina mangante yara mina baby nikal falala nikal fa nikal valala kalfa ma chen nikal fa mbaula. Ta claque ta qui dit t'aime les asima, calfa ma chien, ni calfa m'faula, ni calfa bamanande umbela, calfa ma chien, ni calfa lala, ni calfa, ni calfa lala. Si sojuna, merci vraiment sojuna, merci bona, chamuru idila, mangante yara mina bébé, ne a chouffe snow, yeah. Nela chufe lolore ye, nela chamuru iti ye. De love du mankari nye, de amour du mankari nye, de trois kere koni kari, o kari abamali tofe. De love du mankari nye, de amour du mankari, kere koni kari nye.
abamaline tout fait. Nous sommes mes étiennes. Paris fait nous avec nous sommes faits. Comment nous avec nous sommes là. Autoro mania la e. Ni ne mena que na mani ne na na. Ike ne yen bébé. Na ode gadi. Ni ne mena que na mani ne na na. Sentir d'année kou bébé. No débit satisfait. Diesel. Oko roche roue ma terre. Diesel y va dans. Chami mene na e boy la choufe. Eba don kone rido. Oli bébé mana. Ni ne ga bébé ni mana. Te se sino la fiu. Inde ni mana. Ni ne a point final mana. Te se sino la fiu. Nega choufe fariga ne ye. A choufe lolo ni ne ye. Nega chamuru iti. A Baba Zembe FMCV Tim Dezwe Bao Kulta faut exulé. Go pour m'oublier, t'es faux belle la tête. Toro Robe, Ndali Jogobe. Bade Masi la super Otobe. Pamena Dibé, salut Yabé. Ba Olu Bebu Tarifé. Love you do man carry de de, amour do man carry de trois, quelle conne carry.
Bizarro on the train.
Nous venons d'apprendre par voie de presse la décision du tribunal administratif de condamner l'État à indemniser une personne victime de violences policières suite aux blessures qui lui ont été infligées il y a maintenant 14 ans. Le 8 juillet 2009, la police a tiré dans le tas. Une date parmi tant d'autres. Une histoire de violence policière parmi tant d'autres. Celle-ci s'est passée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le soir d'une expulsion d'un bâtiment occupé en centre-ville, la clinique. Un lieu d'organisation collective, un lieu d'habitation. Un lieu où beaucoup d'entre nous ont tenté de se réapproprier ce que ce monde ne cesse de nous déposséder. Une manière de faire exister de la solidarité, quand toutes les décisions administratives et sociales usent de la violence pour servir les intérêts économiques des spéculateurs. Quand les lois entravent la liberté de chacun et chacune de s'installer ou de circuler pour mieux les exploiter. Une manière de se défendre contre la violence que l'on subit, quand nous sommes contrôlés alors que nous n'avons pas de papier, quand nous devons nous justifier pour pouvoir avoir accès aux droits et à la santé, quand nos indemnisations chômage nous sont retirées, quand les loyers augmentent et que nous ne pouvons plus nous loger. Ce soir du 8 juillet 2009, c'est sur tout cela qu'ils ont tiré. Au moins 6 personnes ont été blessées. Elles ont porté plainte. En novembre 2016, 7 années après, 3 policiers tireurs ont été condamnés à des peines de 7 à 15 mois de sursis, assorties de l'interdiction de porter une arme pendant 12 à 18 mois. Le tribunal n'a pas retenu la légitime défense évoquée par leurs avocats. Le tribunal ne reconnaît pas les soi-disant violences de la part des manifestants décrites par les policiers pour justifier leurs tirs. Les policiers ont fait appel de cette décision. Deux d'entre eux sont condamnés en appel à 7 et 18 mois de prison avec sursis et 12 et 24 mois d'interdiction de port d'armes. Le tribunal ne condamne toutefois pas les policiers à verser les dommages et intérêts aux victimes, alors que l'une d'entre elles a l'œil crevé. La question des indemnisations est renvoyée aux civils. Une procédure au tribunal administratif est alors ouverte, contre l'État et la chaîne de commandement. Le 2 février 2023, soit 14 ans après, et après 2 renvois, le tribunal administratif se saisit du dossier. Il s'agit d'une procédure on ne peut plus banale, durant laquelle les juges ne statuent que sur dossier. Il n'y a pas d'audition de témoins et seuls les avocats prennent la parole. L'audience est publique, mais il est rare que les personnes concernées s'y rendent. La grande majorité des affaires traitées sont des recours menés par des personnes sous le coup d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire. Traités dans la plus grande indifférence, et le plus triste mépris. Nous décidons de nous y rendre. 14 ans après, nous sommes toujours là, nombreux et nombreuses. Le temps de cette justice qui joue la carte de l'usure ne nous a pas affaiblis, un peu éparpillés, parfois égarés certes, mais nous étions là. Et nous n'étions pas seuls. Des compagnons et compagnonnes de route rencontrés durant ces longues années passées sont là aussi, dans cette salle, dans nos vies et dans nos cœurs, pour ceux et celles qui nous ont définitivement quittés. Parce que contrairement à ce que cette justice aurait souhaité, nous n'avons pas fait qu'attendre, nous avons construit. Nous n'avons peut-être pas tout subi, cette temporalité de la même manière, mais nous avons su tirer profit de ce moment, qui n'était en rien pour nous suspendu. Nous avons continué la clinique, dans la rue, dans nos relations. Nous avons collectivisé nos expériences pour partager et lutter contre l'idée que les pouvoirs veulent faire de nous. Hier soir, une journaliste de l'AFP appelle sur le téléphone de Joachim. Il ne répond pas. Elle lui envoie un message lui demandant ce qu'il pense de la décision du tribunal administratif. Il ne répond pas. Dans le même moment, une dépêche AFP reprise par plusieurs journaux rend publique la décision du tribunal, alors que ni la personne concernée ni l'avocat n'en sont informés. L'information qu'on retiendra et la responsabilité que le tribunal impute à la victime quant à sa blessure. Quel que soit le montant de l'indemnisation, aucune somme d'argent ne pourra réparer ce que nous avons subi. Rien ne pourra venir soulager les blessures invisibles que nous devons encore aujourd'hui panser. Vivre avec cela, et avec ce que nous sommes, c'est aussi souffrir de voir les autres avancer. C'est une blessure qui frappe nos intimités. Rien ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils nous ont infligé. Jamais. L'indécence de cette décision nous dépasse. Elle rappelle à tous ceux et toutes celles qui demain vont mener des actions OTA leur propre part de responsabilité, même si l'État est condamné. Une stratégie bien connue, celle de l'agresseur. Celui qui frappe doit justifier son geste. Si son geste est injustifiable, il invoquera la responsabilité de la personne qui l'a frappé, pour que tout le monde accepte l'inacceptable. C'est ce que cette décision nous dit. Soumettez-vous à l'inacceptable. Il n'y a pas de responsabilité des personnes lorsqu'elles subissent l'oppression instituée. Les histoires de lutte nous le racontent. Aujourd'hui reprises et institutionnalisées par les mêmes qui, hier, voulaient nous faire croire le contraire.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Vous êtes toujours dans les infos choisies. Et c'est toujours le vendredi 17 février. On va continuer sur cette thématique. Merci beaucoup pour ton texte. Parce qu'en ce moment, il y a un gros truc qui se passe en France. Il y a le Parlement qui est en train de discuter d'une loi pour renforcer les pouvoirs de la police et augmenter le risque de violence policière. C'est la loi Darmanin. Et on accueille une camarade en studio qui a accepté de venir nous dire quelques mots sur cette loi contre les étrangers, cette loi Darmanin. Alors, salut.
Salut.
Est-ce que tu peux nous raconter... Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, en fait ?
Oui, alors je vais parler un peu de cette loi, mais je veux quand même préciser que je ne suis pas une experte, juriste ou avocate, mais en tout cas, je fais partie des personnes qui sont mobilisées contre cette loi en ce moment à Marseille. Je précise que donc, c'est une loi qui s'appelle Asile et Immigration. C'est un nouveau projet de loi donc, qui est actuellement en discussion. Ça veut dire qu'il n'a pas encore été voté, mis en application. Donc c'est aujourd'hui encore qu'on peut s'organiser et lutter contre cette loi. Comme tu l'as dit, il est en discussion au Parlement. Le 1er février, il est passé devant le Conseil des ministres. Donc actuellement, il est au Sénat et il finira à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que le gouvernement a engagé pour ce texte la procédure accélérée, donc qui est une procédure qui est censée être dérogatoire et qui est d'ailleurs complètement injustifiée pour un texte comme celui-ci. Ça veut dire qu'il y aura seulement une seule lecture par chambre du Parlement, donc ça va aller très vite. À savoir aussi, c'est que en fait, cette loi, elle divise à droite. C'est-à-dire que malgré le contenu de la loi qu'on va voir tout de suite, en fait, la droite est plutôt opposée à ce texte. Par exemple, le parti des Républicains, donc le parti dirigé par Éric Ciotti, lui craint des régularisations massives à cause d'un élément qui est central dans ce projet de loi, qui sont ces fameux titres de séjour pour les métiers en tension, dont on va parler tout de suite. Donc voilà, les Républicains dénoncent cette possibilité pour plus d'étrangers d'avoir accès à la régularisation, et Darmanin tente de la rassurer comme il peut. Donc en fait là, on assiste quand même à un texte qui est en train de pencher encore plus à droite, alors que évidemment on est très loin avec ce titre de séjour pour métier en tension de régularisation massive. On le voit quand on regarde d'un peu plus près le contenu de la loi. D'abord, en fait, ces titres de séjour, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. En fait, les préfectures, elles ont déjà ce pouvoir. Là, il s'agit en fait de systématiser ça et de renforcer ces pratiques et de faire en sorte effectivement que les autorisations de séjour pour les personnes étrangères dépendent quasi exclusivement de l'exploitation par le travail. Donc qu'est-ce que c'est que ce titre de séjour pour métier en tension ? Ça veut dire que si le métier qui est pratiqué par la personne étrangère est sur une liste des métiers en tension, en gros, elle aura possiblement accès à ce titre de séjour au bout de 3 ans et de papiers qui peuvent justifier qu'elle pratique ce métier, donc tout en étant sans papier évidemment. Mais cette liste, elle est fixée par qui ? Elle est fixée par les États et les patrons, donc qui décident donc des secteurs et des zones géographiques aussi qui sont considérées comme en tension. Donc c'est eux qui ont la main là-dessus. Et puis aussi, Darmanin, il a rappelé lui-même hein, dans la presse pour assurer la droite, en fait, ce titre de séjour n'aura une validité que de 1 an et n'ouvrira, par exemple, aucun accès au regroupement familial. Donc, en fait, on est vraiment sur une accentuation de l'exploitation dans des conditions indignes et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France l'année prochaine et qu'il va y avoir un gros besoin de main-d'œuvre pas chère, exploitable à merci. Donc évidemment, cette loi est parfaitement à propos dans ce contexte économique, quoi.
Ouais, puis ça veut dire que c'est pas possible de se projeter en fait, parce qu'en fait tu peux avoir ton titre de séjour à un moment donné, et si ton métier il sort, le métier que tu fais il sort de la liste des métiers en tension, et ben finalement t'as plus de titre de séjour.
Oui, ouais, en tout cas c'est ce qui apparaît dans le projet de loi, c'est qu'en fait il y a aucune assurance, aucune garantie de conserver son titre de séjour. Et aussi je pense que sur le fond, ça montre à quel point on conditionne la présence et l'existence de personnes étrangères au fait qu'elles travaillent, quoi. Et qu'elles travaillent dans des conditions qui sont indignes, parce que c'est les métiers en tension, etc. Voilà, donc ça, on est sur le côté positif de la loi, hein, tel qu'il est présenté par le gouvernement et tel qu'il est présenté aussi par beaucoup d'associations auprès des personnes, des travailleurs sans papier. Donc ça c'est quand même un gros problème, parce que la critique justement, c'est de dire en fait ce type de séjour il existe déjà, et en fait il recule sur un certain nombre de droits que les personnes ont aujourd'hui, aussi critiquables qu'elles soient, mais en tout cas ça, c'est quand même un recul des droits là-dessus. Et sinon, sur la partie donc plus criminalisation assez frontale, il faut savoir que cette loi, elle propose de systématiser et d'allonger les OQTF, donc ces obligations à quitter le territoire français. Alors, il faut savoir que la France est le pays européen qui distribue le plus d'OQTF, 100 000 par an. En revanche, c'est pas forcément le pays qui arrive à les exécuter le mieux. Les OQTF, qu'est-ce qu'elles produisent ? Elles mettent les personnes qui en reçoivent dans la clandestinité, le risque de contrôle, d'arrestation et donc au final d'expulsion. Et donc Darmanin est assez clair sur cet aspect de la loi. Il dit que justement, il veut exécuter de manière plus efficace, plus systématique ces expulsions après délivrance d'une OQTF. Et pour citer encore donc, le ministre de l'Intérieur, il s'agit de rendre la vie impossible aux migrants. Donc systématiser, ça veut dire en cas de refus d'un titre de séjour au QTF, ça veut dire exécution plus systématique, ça veut dire moins de voies de recours, et ça veut dire aussi, et ça c'est assez grave cet aspect-là de la loi, ça veut dire les associer assez systématiquement avec des IRTF, qui sont des interdictions de retour sur le territoire français. Voilà, ce qui ne fait pas partie forcément des OQTF. Ces IRTF sont un dispositif administratif qui empêche les personnes de revenir sur le territoire français pendant plusieurs années, et du coup qui rend très difficile l'accès à la régularisation notamment. En plus de ça, un aspect assez important de la loi, c'est la généralisation de la double peine. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc cette double peine, c'est la possibilité d'expulser des personnes qui ont déjà purgé une peine de prison. Donc ça, c'est déjà le cas dans le sens où dans les CRA, donc les centres de rétention administrative, j'y reviendrai un petit peu après, un quart, donc c'est des prisons pour étrangers en gros, et donc un quart des personnes qui sont enfermées dans les CRA sont des personnes sortantes de prison. Donc c'est-à-dire que une fois qu'elles ont purgé leur peine de prison, elles sont envoyées directement en CRA et elles risquent très, très probablement d'être expulsées par la suite. Donc là, il s'agit de généraliser cette... pardon, j'ai tapé dans mon micro. Voilà, j'ai pas trop l'habitude.
Petit bruit du micro.
Désolée pour nos nombreuses auditrices. Donc il s'agit de généraliser cette pratique de la double peine et de créer notamment cette catégorie, de prolonger cette catégorie de menace à l'ordre public, donc la menace à l'ordre public qui pourra être donc invoquée contre les personnes étrangères pour les enfermer de manière beaucoup plus facile. En fait, ça laisse un flou. Qu'est-ce que ça veut dire menace à l'ordre public? On ne sait pas trop. Ça peut être énormément de choses. Peut-être un mot de trop contre un policier ou être trouvé avec un joint dans la rue. Enfin bon, en fait, tout peut être motif à menace à l'ordre public.
Oui, surtout que c'est le flic qui, lui, est juge à ce moment-là de savoir.
Ouais, tout à fait.
C'est pas une décision de justice, c'est au bon vouloir de la personne
ouais, exactement.
Qui va l'arrêter.
Ça laisse complètement place à l'arbitraire. Et pour ça, évidemment, pour pouvoir enfermer davantage et expulser davantage, il y a la nécessité de ces centres de rétention administrative, qui sont des lieux d'enfermement pour les personnes sans papier, donc pendant une période qui peut aller jusqu'à 3 mois, parfois plus, dans l'attente de leur expulsion. Et donc les personnes qui y sont enfermées sont généralement déboutées de l'asile ou ont eu un refus de titre de séjour. Et donc évidemment, pour pouvoir mettre en application cette loi qui accentue donc le régime de traque et de criminalisation des personnes étrangères, comme on l'a vu, il faut plus de places en CRA, il faut plus de CRA. Et c'est exactement ce que l'État est en train de mettre en place à travers des marchés fructueux, donc de grosses entreprises telles Vinci, du coup, qui construisent des nouveaux centres de rétention en France. Il y en a deux qui sont prévus, notamment à Bordeaux et à Nantes. Et il y a aussi un CRA à Marseille, qui est un très, très, très vieux centre de rétention dans le quartier du Canet. Et donc, pour finir, il faut savoir qu'il y a une mobilisation qui existe en France, qui est très suivie par plusieurs collectifs, organisations. Il y a une organisation au niveau national et des organisations locales. Et en France, du coup, à Marseille, il y a une manifestation du coup, qui est organisée demain sur la base d'un appel national. J'invite toutes les personnes qui peuvent s'y rendre à cette manifestation à y venir nombreux et nombreuses. Ce sera à 14h au métro Bougainville. Et donc l'idée, c'est de lier la lutte contre ces centres de rétention administrative à la lutte contre ce projet de loi Darmanin, qui est une loi raciste et contre laquelle, si on s'organise nombreux et nombreuses, on peut gagner.
Eh ben, rendez-vous samedi alors.
Pneumatique.
Et vous êtes toujours dans les infos choisies et on approche de la fin de notre émission, mais on avait quand même envie de finir par des bonnes nouvelles, voilà, parce que franchement, une fois n'est pas coutume. Et en allumant la radio ce matin, en fait, j'ai eu le sourire, moi, et ça, c'est pas hyper courant. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, la première chose qui m'a donné le sourire, c'est qu'en Espagne, vient d'être votée une loi pour le congé menstruel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui ont des règles douloureuses peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Voilà, c'est un peu une loi inédite en Europe. On ne sait pas exactement encore comment ça va être appliqué. En tout cas, ça, comme tous les arrêts de travail, ça devra être accordé par un médecin et ce sera financé par la Sécurité sociale. J'ai appris à cette occasion que, en fait, le congé menstruel est déjà en vigueur dans plusieurs pays. Au Japon depuis 1947, en Corée du Sud, à Taïwan, en Indonésie et en Zambie. Voilà, en Zambie, c'est un jour par mois qui est accordé, payé au titre du congé menstruel. C'était la première nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'en Espagne toujours, le Parlement vient de voter une loi qui permet le changement de genre sur simple déclaration administrative à partir de l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux attestant de la fameuse dysphorie de genre, ni tout un tas de preuves, etc. etc. Voilà, donc à partir de 16 ans, c'est possible de pouvoir faire une simple déclaration administrative. Et franchement, ça fait du bien. Ça, c'est une loi qui arrive après des luttes de tas de collectifs et d'associations en Espagne. Voilà, donc ici aussi, on a envie de continuer à se mobiliser. Et juste pour vous dire que ce dimanche 19 février, il y a un atelier d'ailleurs d'autosupport administratif de 10h à 12h qui est proposé par l'association Tea Time à Marseille. Voilà, donc que vous soyez en cours de démarche ou que vous commenciez des démarches administratives, changement de prénom, de mention de sexe à l'état civil, etc., etc., on peut se rejoindre de 10h à 12h et c'est au Cici Club, 18 rue du Coq. C'est dimanche à Marseille et ça nous fait une petite transition vers l'agenda finalement.
Ok.
Donc ce soir, de 19h à 22h, aura lieu l'Assemblée publique pour le droit au logement et contre l'embourgeoisement des quartiers. Venez partager les problèmes de logement, de loyer, d'expulsion et discuter des moyens de lutter contre la gentrification. Ça se passe à l'ADAR, 127 rue d'Aubagne.
Et ce soir, toujours à 19h, il y a la présentation du livre « Plaidoyer pour la langue arabe à Transit, boulevard de la Libération » avec Nada Yafi.
Toujours ce soir, à 20h, il y a la présentation du livre « Highway to Sahel ». Alors ce livre, il s'agit de... C'est entre 2013 et 2014, la France lance successivement les opérations Serval et Barkhane au Sahel, notamment au nord du Mali, claironnant qu'elle va repousser la menace djihadiste dans la région. Il y a marqué Cocorico. Dans la région Cocorico. Sympa ! Et donc c'est ce soir à Manifesten, 59 rue Adolf Hitler. Pardon, Adolf Hitler. Pardon, Adolphe Thiers, dans le premier arrondissement. On n'est pas loin.
Alors, on passe à demain, samedi 18 février. On vous en a parlé tout à l'heure, mais on le redit. À 14h, c'est rendez-vous métro Bougainville pour la manifestation contre les CRA et la loi Darmanin.
Demain, de 16h à 19h, il y a la permanence trans et intersexe proposée donc par l'association Tea Time dont on a évoqué tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, cette permanence aura lieu dans les locaux du planning familial 13 106 Boulevard National dans le 3e. Et juste pour info, il est possible de se changer sur place et c'est bien d'apporter des jus, des fruits, des gâteaux, des petites douceurs.
Et demain toujours, à partir de 18h, c'est soirée de soutien pour le collectif Lunapo à la Darlamifa avec une entrée prix libre dès 18h. des crêpes, une tombola prix libre et un concert plus un DJ set avec plein de groupes et de DJ de qualité.
Dimanche, à partir de 11h, il y a un petit déjeuner en solidarité aux personnes victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Le prix solidaire est de plus ou moins 10 euros. Ça se passe à Casa Consola, 1 rue Consola, dans le 1er arrondissement. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a des personnes qui s'organisent à Marseille autour de cette solidarité pour en faire une solidarité internationaliste. Donc avec des idées qu'on porte, comme notamment le fait que la spéculation et, a fait aussi que ces victimes-là, autant de victimes, c'est que du coup la spéculation est un peu la cause de ça aussi. Cette coordination a une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire pour avoir des informations, voir les rendez-vous. C'est solidarité sans accent -séisme sans accent @riseup.net, solidarité-séisme @riseup.net.
Et dimanche 19 février, toujours à 17h, il y a la projection du film Fedaïn, le combat de Georges Abdallah, organisé par le Festival Ciné-Palestine. Et ça se passe au Mon Café, place Jean Jaurès.
Et là, on rajoute juste pour jeudi 23, de 12h30 à 14h30, comme tous les jeudis, il y a la cantine à prix libre à la Darla Mifa, 127 rue d'Aubiagne, par le collectif de Noble Kitchen. Juste pour info, Noble Kitchen, c'est quatre femmes qui se retrouvent au cœur du drame de l'industrie, de l'incendie criminel de la Cité des Flamands de l'été 2021, qui a quand même fait 4 morts et des dizaines de blessés, de personnes choquées, 300 personnes délogées et sans solution durable. Donc ces quatre femmes ont fait à manger pendant tout le temps où les personnes étaient expulsées de la cité et hébergées provisoirement dans des hôtels, sans possibilité de cuisiner. Et donc elles font toujours ces cantines-là, à Darla Mifa, à 12h30, tous les jeudis.
Ben voilà, les infos choisies, c'est terminé pour aujourd'hui. On a un petit peu dépassé le temps. On espère que ces infos choisies vous ont intéressé, vous ont plu. On pense encore très fort à nos camarades qui sont pas très loin, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup.
Merci à vous, merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.